Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo.
Au sommaire de ce journal, le chef coutumier et ancien chef milicien Yves Kawapanga Mandro dans les viseurs de la justice militaire de Bounia en Ituri. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. La Commission électorale nationale indépendante a déposé mercredi dernier son rapport annuel à l'Assemblée nationale pour examen. Le président de la CENI a à cette occasion plaidé pour le financement de son institution afin de finaliser les processus électoraux en cours. Notre invité est le président national de la commission artisanat minier à la Fédération des entreprises du Congo. John Canyon Ninsana revient sur la mesure du département du travail des États-Unis qui ajoute les cobalt de la RDC à la liste de biens produits par le travail des enfants. Bonjour, ce journal part de l'Ituri où Yves Kawapanga Mandro, chef coutumier et ancien chef milicien, fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte par la justice militaire pour participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Un mandat de comparution à son encontre a été émis le 23 septembre dernier par l'avocat général militaire près la cour militaire de l'Ituri. Il est accusé d'entretenir des liens avec les groupes armés Zaïre, une milice active dans la région. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
La justice militaire accuse Yves Kawapanga Mandro d'avoir soutenu les groupes armés Zaïre, notamment après l'attaque simultanée sur les localités de Tchomia, Kasenyi et Sabé dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024. Cette attaque, menée par des éléments de la milice, a coûté la vie à un major des FRDC selon les sources militaires. De plus, une cache d'armes a été découverte la semaine dernière près du site des déplacés de Nyamusasi à Tchomia, renforçant les soupçons. Les investigations de l'auditorat militaire ont conduit à l'arrestation de deux personnes, dont un membre de la milice Zaïre. Ces dernières auraient affirmé qu'Yves Kawapanga Mandro était impliqué dans cette rébellion, selon des sources judiciaires. L'accusé est convoqué à l'auditorat supérieur de l'Ituri le 4 octobre prochain en Evert. Yves Kawapanga Mandro, déjà condamné à 20 ans de prison en 2006 pour des faits similaires, ne résiderait pas actuellement en RDC. Bounia, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, une plainte contre Madame Denise Dussochois pour association des malfaiteurs, torture corporelle, injure publique a été déposée le 24 septembre à la Cour de cassation et à l'auditorat militaire par les collectifs des avocats de Monsieur Jacques Ndala, président du mouvement du réveil et des prises de conscience, MRPC, ancien coordonnateur national de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En effet, dans une vidéo devenue virale sur les nets, Denise Dussochois s'était rendu coupable en relatant des sévices dont les viols, sodomies qu'aurait subi Jacques Ndala dans les locaux de l'ANR lors de sa détention en 2022. Maître Eric Bisselo, avocat principal du collectif de Jacques Ndala, réclame justice pour leur client. Il est au micro de Gisèle Cage.
L'affaire date d'il y a plus ou moins quelques années, mais qui a connu son cheminement le dimanche 15, où Madame Denise Dussochois est sortie de son silence pour relater les sévices qu'auraient fait vivre les services d'enseignement à mon client, Monsieur Jacques Ndala. Et sachant que ce sont des sévices assez graves, notamment, on parlerait de viol, de sodomie, mais également d'enregistrement, des humiliations. Il y a d'autres révélations qui sont beaucoup plus graves, qui n'ont pas encore été dévoilées. Donc nous sommes dans une phase instructionnelle, mais devant le silence des cours et tribunaux, il nous fallait prendre l'action et puis faire reconnaître M. Jacques Ndala comme étant non seulement victime des sévices pratiqués par les agents de l'ANR selon Mme Dussochois. Nous avons pensé que Mme Dussochois pouvait être arrêtée pour association de malfaiteurs, viol commis par les personnes qui ont autorité sur la victime, parce que le viol se serait passé dans les locaux de l'ANR. Quand elle est sortie devant les caméras, c'était pour humilier une personnalité publique qui se bat pour la République, pour la jeunesse, mais également pour les valeurs.
Rendons-nous au Nord Kivu, où les discours du chef de l'État et président de la RDC prononcés mercredi du haut de la tribune des Nations Unies a été largement suivi par la population, mais différemment interprété par les acteurs sociopolitiques de la province. Gabriel Wamenya pour les reportages.
pour par exemple les partis politiques Engagement Citoyen pour le Développement et SIDE de Martin Fayoulou, le discours du président Félix Tshisekedi est un rendez-vous raté, affirme le député honoraire Mouindo Kasekwa, cadre de l'SIDE.
Je trouve que le discours prononcé par M. Félix hier à la tribune des Nations Unies, c'est un rendez-vous manqué. La question des FDLR sert d'alibi pour le Rwanda depuis la guerre de l'AFDL, la guerre du RCD, du CNTP jusqu'à ce jour, et que cette question des FDLR nous a été amenée par les Nations Unies.
Pour la société civile du Nord Kivu thématique et bonne gouvernance, les pays membres de la région doivent respecter les engagements signés entre eux, relève ici Étienne Kambalé.
Nous pensons qu'il a bien fait. La cote qu'on pourrait lui accorder, c'est 10, c'est 3. C'est bien d'avoir tapé sur la table, c'est que le Rwanda n'est pas un partenaire sérieux pour respecter ses engagements.
De son côté, l'IDPS salit les discours mérités du chef de l'État, dit ici Georges Yalala.
Il a presque touché tous les points, comme par exemple le point de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda.
Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. Une accalmie relative s'observe encore dans les camps des déplacés situés à Mugunga ainsi que vers les collines de Rusayu où des affrontements ont opposé ce jeudi très tôt les FRDC aux Wazalendo et FDLR. Plusieurs sources dans la région parlent des morts et des blessés parmi les déplacés ainsi que dans le rang de Wazalendo. L'armée, quant à elle, n'a toujours pas communiqué sur cette situation. Sifa Maguru.
D'après plusieurs sources dans la région, au moins 3 morts et une vingtaine de blessés ont été enregistrés parmi les déplacés du camp de Lushagala Extension, situé à proximité de la zone des affrontements. Ces affrontements se sont déroulés à proximité des déplacés, notamment du site de Rusayu, de Baraka et de Samsam. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital Sebekandosho, tandis qu'une fillette de 6 ans aurait succombé de ses blessures. Les déplacés qui ont fui ce matin se seraient dirigés vers Minova, Sake et Goma, rapportent nos sources. Ces accrochages entre les FARDC contre les Wazalendo et les FDLR auraient commencé depuis mardi dernier, d'abord vers Sake, puis à Chovu et ce matin à Rusayu, dans le parc de Virunga en territoire de Nyiragongo, affirment nos sources. Difficile jusqu'ici de préciser la cause de ces affrontements. Tous nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Le nouveau commandant de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, FIB, appelle à la collaboration de tous les acteurs locaux et nationaux, mais aussi les forces qui interviennent dans la lutte contre les EDF, dont l'armée ougandaise UPDF. Pour le général Richard Tobias, ce n'est qu'ainsi que l'on vaincra définitivement la rébellion des EDF. Le général Chagona Panja l'a dit ce jeudi devant la presse locale à Beni. On l'écoute au micro de Sadiki Aboubakar.
Des efforts sont faits à différents niveaux et par différents partenaires en vue de neutraliser et défaire les EDF dans leur retranchement. Dans ce sens-là, nous comptons en tant que FIB participer aussi à cet effort avec 3 objectifs majeurs. D'abord, empêcher la liberté de mouvement aux EDF au sein de la zone de Beni et au-delà si possible. Assurer, garantir donc la protection des populations civiles et enfin garantir que EDF à la longue ne soit plus une menace, donc en les neutralisant et en les défaisant donc dans cette zone de Beni. Donc nous comptons donc avec ces objectifs et en collaboration donc avec tous les autres partenaires, que ce soit UPDF, FRDC, PNC, les gouvernements, la population civile, que nous puissions arriver à cet objectif qui est de sécuriser et ramener la paix à cette région. Donc je tiens à préciser qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on soit humble en disant que la FIB toute seule et moi-même en tant que commandant FIB, je ne pourrais pas tout seul défaire les ADF. Donc pour cela, nous avons vraiment besoin de tous les partenaires qui opèrent dans cette zone. D'abord, les populations locales pour leur soutien, les acteurs politiques aussi dans la zone et les chefs traditionnels et locaux.
Our objective is one.
La Commission électorale nationale indépendante a déposé mercredi dernier son rapport annuel à l'Assemblée nationale pour examen au cours de cette session. Dans le cadre du rapprochement entre les deux institutions, le bureau de la CENI, conduit par son président Denis Kadima, a échangé avec Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. Au menu des échanges, les financements de la CENI pour qu'elle finalise les processus électoraux en cours. Michel Kifindangoy.
Après avoir déposé le rapport annuel de la CENI, Denis Kadima, accompagné de tout son bureau, a évoqué avec le président de l'Assemblée nationale toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens. Le président de la CENI a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout est fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et à Massimanimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Denis Kadima.
Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point, d'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait.
Le président de l'Assemblée nationale a précisé que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin d'élever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans les différentes municipalités, souligne Vital Kamere.
Direction la province du Sud Kivu. Des poissons en détresse, nageant de manière erratique à la surface du lac Kivu, ont été ramassés par les habitants des Minova à la lisière entre le Nord et le Sud Kivu. Cela s'est passé mardi et mercredi vers les golfes des Kabuno. Selon la société civile de Bouzi, ce phénomène inhabituel a immédiatement attiré l'attention des habitants des Minova qui se sont mis à capturer ces poissons flottant sur les lacs. Certaines sources estiment qu'une probable explosion des gaz méthane aurait secoué les golfes des Kabuno, ce qui a provoqué l'asphyxie des poissons. Sadiki Juge, président de la société civile du groupement Bouzi, territoire de Kalehe, explique. Il est joint depuis Goma par Denise Lukeso.
Ce phénomène est arrivé encore dans le village de Kitembo. C'est le lac Kivu, dans ce qu'on appelle Chamuyange, où il y a les cages flottantes. On a retrouvé il y a une semaine encore des poissons morts en grande quantité. Ce phénomène arrive pour la cinquième fois, dira quatre. On a vu encore en 2008, en 2021, encore des poissons, des serpents et d'autres animaux aquatiques mourir dans le lac Kivu. Le lac était devenu coloré en vert. Chose qui étonne et qui nous fait peur comme société civile, c'est que la population a commencé à consommer des poissons retrouvés morts sur le lac Kivu, alors que ces animaux sortaient sous forme d'être moyennement cuits, ce qui fait la peur. Les autorités sanitaires, les autorités en charge de l'environnement, mais aussi les spécialistes des gaz n'ont rien dit quant à ces animaux, alors que certaines personnes qui avaient consommé ces poissons en 2022 avaient été hospitalisées à Minova.
Il faut aussi signaler que le golfe des Kabuno est reconnu pour sa forte concentration de méthane et de dioxyde de carbone dissous dans les profondeurs. Nos tentatives pour avoir une explication scientifique des responsables de l'OVG n'ont pas abouti. En Ituri, plus de 500 arbres seront plantés le long du boulevard de la Libération dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique à Bunia. Cette initiative vise à embellir une ville de plus en plus touchée par la chaleur due au changement climatique. De nombreux habitants saluent cette action, espérant qu'elle offrira un nouveau visage à leur ville. Ils plaident également pour la mise en place d'un mécanisme de suivi pour protéger ces jeunes arbres. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Cette décision du maire intervient 3 mois après l'obligation faite aux propriétaires des boutiques, restaurants et magasins le long de la voirie, de paver les devantures de leurs établissements. L'objectif est de rendre la ville plus propre et de lutter contre l'insalubrité qui expose les habitants à diverses maladies. Témoignage d'un habitant.
Les autorités sont en train de faire des choses meilleures. C'est pour mettre la ville vraiment à valeur. Et puis ça montre l'esthétique de la ville.
Des arbres seront plantés dans certains sites, notamment le rond-point pique-nique et le marché central, jusqu'au rond-point Sonas, dans le but de réguler le climat de la ville. Dieudonné Maki, responsable de l'ONG Ville Propre, explique l'importance de cette plantation dans une ville en pleine expansion comme Bunia.
La propriété de la ville, ce n'est pas seulement l'absence des déchets, c'est aussi la présence de ces arbres-là. La beauté de la ville, c'est tout un ingrédient. Ça demande beaucoup de choses.
Le maire de la ville de Bunia appelle la population à veiller sur la croissance de ces arbres pour le bien-être de tous.
Avec le goudron et puis le pavement, ça va encore donner beaucoup de chaleur. Vous savez, les arbres sont très nécessaires pour l'homme.
De nombreux habitants demandent au gouvernement de mettre en place un mécanisme de suivi pour toutes les initiatives de développement entreprises dans la ville. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les attaques extrémistes au Sahel, une bande de terroristes au sud du Sahara en Afrique, se sont multipliées ces derniers mois. La semaine dernière, des djihadistes ont attaqué Bamako, la capitale du Mali, pour la première fois depuis près de 10 ans, démontrant ainsi leur capacité à mener des attaques de grande envergure. Les mois derniers, au moins 1000 villageois et soldats ont été tués dans les centres du Burkina Faso lors de l'attaque d'un village par des djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'ils aidaient les forces de sécurité à creuser des tranchées pour protéger les avant-postes de sécurité et les villages. Au cours de la dernière décennie, la région a été secouée par des soulèvements extrémistes et des coups d'État militaires. 3 pays du Sahel, les Mali, les Niger et les Burkina Faso, sont aujourd'hui dirigés par des militaires qui ont pris les pouvoirs par la force en promettant d'assurer une plus grande sécurité aux citoyens.
L'invité.
Notre invité est le président national de la commission artisanat minier à la Fédération des entreprises du Congo, John Kanyoni Nsana, explique la mesure du département du travail des États-Unis qui ajoute les cobalt de la RDC à la liste de biens produits par le travail des enfants ou les travaux forcés. Il s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur John Kanyoni, bonjour.
Bonjour.
Comment la FEC accueille cette décision de l'administration américaine d'ajouter le cobalt de la RDC sur la liste des minerais qui posent problème?
Je voudrais d'abord vous donner une information pour vous dire que c'est une initiative qui a été initiée par le gouvernement des États-Unis depuis plusieurs années. Mais chaque 2 ans, ils font en fait ce qu'on appelle une évaluation et ils mettent. Mais il n'y a pas que le cobalt. Hein. Pour la RDC, on parle du cobalt, on parle du cuivre, on parle des 3T, c'est-à-dire l'étain, le tungstène et le coltan, mais on parle aussi de l'or. Mais je voudrais vous rassurer aussi que ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la RDC. Donc, si vous lisez un peu les rapports et que vous allez en profondeur, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui ne sont pas nécessairement les mines, comme les cafés, les tabacs, l'élevage et même les cotons dans d'autres pays. Mais on va rester focalisé sur la décision qui a été prise chez nous. Alors pour nous, naturellement, c'est une question qui nous préoccupe et nous allons voir un peu dans la mesure du possible comment on va travailler avec notre gouvernement et particulièrement les ministères du tutelle qui est le ministre des Mines. Mais nous devons travailler sur 2 volets. Améliorer effectivement cette image qu'on s'est fait par rapport à un secteur qui est considéré comme le poumon de notre économie. Et nous ne sommes pas pour autant préoccupés, mais nous devons plutôt voir dans quelle mesure on devrait répondre à ces questions-là à travers un cadre déjà qu'on a mis en place, qui est celui de l'OCDE, qui effectivement répond à toutes ces questions-là.
Et qu'en est-il exactement? Parce que lorsqu'on parle du cobalt, la RDC, qui est ajouté sur la liste des biens produits par les travaux forcés ou le travail des enfants, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par là?
En fait, il y a une initiative, hein, si vous me permettez, peut-être je vais le dire en anglais, qui s'appelle Trafficking Victim Protection Reauthorization. Et chaque fois qu'il y a assez d'indications que dans un secteur bien précis, il y a soit le travail des enfants ou le travail forcé, ça pose problème. Et pour ce qui nous concerne, à l'époque, c'était uniquement le secteur artisanal qui était concerné, mais cette fois-là, il y a une extension même vers le secteur industriel. C'est pour ça que c'est une question qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Nous devons nous-mêmes, comme secteur minier, nous rassurer effectivement que dans nos activités, il n'y a ni le travail des enfants, ni le travail forcé. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a de plus en plus des règles, comme on dit, des conformités auxquelles sont soumises pratiquement toutes les entreprises, quoi. La liste, elle concerne plusieurs pays. Mais je ne suis pas pour autant préoccupé. Pourquoi? Parce qu'avec les États-Unis, nous avons mis déjà en place des mécanismes de travail, surtout sur les secteurs comme celui-là qui est un secteur privilégié. Il ne faut pas oublier que nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, même si les prix ont baissé. Mais on ne pourra pas parler de la transition énergétique sans parler de nous. Et d'ailleurs, le chef de l'État en marge de l'Assemblée des Nations Unies à New York a reçu le sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et l'environnement. Et je suis sûr que cette collaboration qu'il y a déjà entre les 2 États nous permettra peut-être de surmonter cette crise qu'on va traverser.
Est-ce que cette mesure n'a pas ou n'aura pas des conséquences sur l'économie du pays?
Non. Il faudrait que je sois très clair. Il est possible en effet qu'un pays soit retiré de cette liste-là. Et pour le moment, cela ne veut pas dire que toute cette production ou nos marchandises seront automatiquement arrêtées aux frontières, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Mais cela augmente effectivement cette probabilité-là qu'on puisse faire l'objet d'un examen plus approfondi des consommateurs finaux de nos produits. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait une confusion en pensant qu'il y a déjà un embargo sur nos produits. Non. On nous alerte pour dire que nous devons, comme on dit, améliorer notre chaîne d'approvisionnement et le faire de manière responsable.
Qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement congolais, notamment pour que cette question des travail forcé ou des travail des enfants dans les mines soit résolue afin d'éviter le pire à l'économie de la RDC?
D'abord, la responsabilité première, elle n'est pas celle du gouvernement, elle est celle des entreprises, donc elle est la nôtre. Mais bien sûr, si on prend les contextes actuels, surtout dans les Lualaba et les Haut-Katanga, on se rend compte effectivement qu'il y a aussi quelques sites miniers qui sont envahis par des exploitants artisanaux de manière défaite. C'est là que je pense qu'il faut qu'on travaille étroitement avec les gouvernements pour trouver des solutions. Et les gouvernements ont des départements spécialisés pour adresser ces questions-là. Mais bien sûr aussi, nous pensons qu'il est aussi important aussi qu'on y associe la société civile, notre société civile.
John Cagnoni, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'actualité sur Radio Capi. Alain Goy a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Richard Junior Kamunga. Patience Ngalula Mbombo était à la présentation. Merci de nous avoir suivis.